Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En République démocratique du Congo, les communautés locales ont souvent du mal à s'approprier les ouvrages réalisés dans le cadre du développement. Il s'agit entre autres des centres de santé, des écoles, des bornes fontaines, points, des routes, des dessertes agricoles et autres. Et une fois que ces ouvrages sont remis à la gestion de la population locale, ils deviennent moins viables et finissent par se détériorer. Comment aider les communautés à mieux gérer les ouvrages de développement communautaire? Jean-Serge Loumou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en développement. Pourquoi les communautés locales ont souvent du mal à mieux gérer les ouvrages d'intérêt communautaire?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à cette situation.
Oui.
Le premier facteur, à mon avis, c'est de quelle manière ces ouvrages ont été envisagés, ont été planifiés. Ça, c'est le tout premier problème. Parce que si c'est un ouvrage que les organisations de développement ont amené comme un don, comme une œuvre que eux ont réalisée pour la population, il est difficile souvent pour que la population puisse s'en approprier. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Et il est difficile que je m'approprie ce que tu fais contre moi. Donc, il y a là une question d'implication de la communauté concernée depuis la conception du projet jusqu'à la mise en œuvre. De quelle manière la population a été préparée, a été impliquée? Qu'est-ce qui a été donné comme message à la communauté? Est-ce que c'était « nous, organisation X, venons faire ceci pour vous » Quel est le message qui a été donné autour? Donc, ce sont les éléments-là qui finalement font que la communauté n'arrive pas à s'approprier les œuvres réalisées dans la communauté.
Voilà, donc vous avez dit ce que tu fais pour moi, sans moi, alors tu le fais contre moi.
Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi.
Donc vous voulez dire que si la population ne s'approprie pas de certains ouvrages, c'est parce qu'elle n'a pas été impliquée au préalable à la conception du projet?
C'est, même si elle a été impliquée, mais quel a été le degré d'implication? Quel a été le rôle qui lui a été attribué dans la conception de ce projet? Quel est le message qui lui a été donné en rapport avec l'ouvrage? Quel était son degré de responsabilité? Quand je parle là, je parle de tout le cycle du projet, en commençant par l'analyse du problème, par la conception des réponses possibles, par la définition des objectifs, des cadres logiques d'intervention, même les types d'intervention décidés, est-ce que ces types d'intervention correspondent au contexte, aux moyens, ainsi de suite. Donc c'est tous ces éléments-là,
oui,
qui vont finalement définir les degrés d'appropriation de la communauté.
Voilà, prenons par exemple une organisation qui arrive dans un village et pour placer des bornes fontaines, il y a des problèmes d'eau dans ce coin. Alors quelle est la meilleure façon d'impliquer la population, la communauté locale pour qu'après l'exécution du projet, qu'elle s'approprie de cela?
D'abord, qui a dit que dans cette communauté, ils ont besoin des bornes fontaines? Qui décide que ce sont les bornes fontaines qu'il faut mettre? Est-ce qu'on a analysé les coûts de la maintenance et de la gestion de ces bornes fontaines? Généralement, les organisations qui viennent, ils ont des fonds pour gérer, pour maintenir. Mais quand ils vont partir, est-ce que la communauté locale qui reste a le moyen pour maintenir la qualité qui a été envisagée? Donc tout ceci doit être impliqué déjà au départ dans la conception du projet. Le projet ne doit pas être conçu simplement comme on va faire mettre les bornes fontaines, mais comment la maintenance se fera? D'où viendra le ressource pour pouvoir assurer la maintenance? Comment est-ce que la communauté locale elle-même participe depuis la consommation, le début du projet jusqu'à la pérennisation. Donc c'est tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte.
Oui,
si
mais,
c'est moi, organisation X,
oui,
qui vient dans une communauté qui a besoin de l'eau et qui décide les types de solutions que j'apporte, par exemple le bon fontaine, et que la communauté elle-même aurait peut-être préféré autre chose, ça va poser un problème.
Non,
est-ce
mais,
que dans les environs, on a le moyen d'assurer la maintenance des bornes fontaines?
Mais généralement, quand les organisations arrivent comme ça pour exécuter un projet, c'est souvent sur demande de la population locale.
Pas toujours. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours sur demande de la communauté. Et même quand la communauté aurait demandé de l'eau, mais le type d'intervention pour leur permettre d'avoir accès à l'eau, très souvent, ce sont les organisations qui décident. Et même quand ils disent qu'ils ont associé la communauté, parfois, il arrive que la communauté ne soit pas associée de manière significative. Je suis en train de dire, quand vous analysez le projet ne doit pas être un document écrit par les experts dans un bureau. Les membres de la communauté, par leurs délégués, doivent participer dans tous ces processus pour qu'ils comprennent d'où vient l'eau qu'ils vont consommer, qu'est-ce que ça a coûté, quelle est leur responsabilité, quelle est leur contribution et comment est-ce que ça se fera par la suite. Donc, l'un des principes clés dans l'appropriation, c'est que l'appropriation ne se prépare pas à la fin, le jour où l'ONG remet l'ouvrage ou l'ONG veut quitter. L'appropriation commence depuis le début de la pensée du projet.
Bien, voilà, depuis le début de la pensée du projet, nous avons un premier auditeur en ligne, Joseph Agandé, qui nous appelle les Bukavu, au sud Kivu. Comment aider la population à s'approprier des ouvrages de développement communautaire? On en parle aujourd'hui, vous voulez participer, n'attendez pas les dernières minutes. Le standard est ouvert, composez le 081-890-6394, appelez-nous et nous allons vous rappeler juste après.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment aider les populations locales à s'approprier des ouvrages d'intérêt communautaire? Joseph Agandé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je dis de m'avoir accordé la parole, mais aussi je salue l'invité en passant.
Quelle est votre question, Joseph?
Oui, merci. Le sujet est tellement intéressant, à tel point que je dirais que c'est une vie courante. Alors, moi, je vais me pencher sur la construction soit d'une école, puisque c'est ce qui a la une presque ici à Bukavu et dans tous les villages.
Oui.
Alors, l'invité vient d'illustrer tout ce qu'il pourrait dire, mais je voulais poser la question. Le fait de construire une école, c'est vrai, on construit une école et par après, on amène les ouvrages. Alors, dans l'absent de temps, les élèves sont tellement vraiment curieux de pouvoir lire. Mais ce que nous voyons, après soit deux mois ou bien une année, les ouvrages se volatilisent dans la nature. Même si la construction, vous voyez que vraiment tous les objets sont vraiment perdus. Alors, dans ce cas-là, je voulais demander à l'invité qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque c'est vrai, on a besoin d'une aide, mais par après, vous verrez que tout ce qu'on a pu construire se volatilise dans la nature. Cela, on ne pourrait pas dire que les gens ne sont pas intéressés comme il vient d'illustrer. Puisque le fait de construire, vous aidez quelqu'un, mais il n'est pas à mesure de produire après le départ des bienfaiteurs. Alors, je voulais demander qu'est-ce qu'on peut dire à la population bukavienne ou bien à tous les peuples congolais de pouvoir s'approprier de tout ce qu'on a construit pour eux.
D'accord. Merci. Serge Mwamba, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Daniel. Je dis Daniel Kachamaye. Bonjour à l'invité.
Et on vous écoute, Serge.
Oui, j'ai une préoccupation. D'abord, je commence à raconter une histoire. J'ai été à Bokonzi, 52 km de Dongo, dans le territoire de Kungu,
oui.
Province de l'Équateur. pendant la période où le choléra battait les records, il y a une ONG qui était venue aider la population pour le forage d'eau. Alors la population s'était opposée à cette ONG. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire si l'ONG et la population bénéficiaire des dons ne parlent pas le même langage? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce sens-là?
D'accord. Merci Serge. Jean-Serge Lumou, revenons d'abord à Joseph de Bukavu qui dit, voilà, une organisation arrive dans un village et construit une école. Et après la remise de cette école, les personnes chargées de gérer cette école, un bon père de famille s'illustre dans la gestion, brille par leur capacité à mal gérer. Et voilà, après, tout s'abîme, tout se volatilise, il y a des vols et puis voilà, l'école n'est plus viable. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je crois qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, depuis le début du projet, on doit définir le rôle des parties prenantes. Quand il s'agit d'une école, même si l'ONG va apporter l'expertise ou les ressources, mais quel est le rôle des autres parties prenantes? Par exemple, les parents d'élèves qui sont dans la communauté. Quel est leur rôle? On a le comité des parents. Quel est le rôle de ce comité des parents? Ça doit être défini, ils doivent être responsabilisés depuis la conception du projet jusqu'à la suite. Quel est le rôle des enseignants et des chefs d'établissement? Quel est le rôle des autorités politico-administratives de l'FSP, par exemple?
Oui, Jean-Serge.
Par rapport à ce projet.
Jean-Serge.
Si cette responsabilisation est bien faite au départ,
oui,
on aura déjà résolu un problème.
Et
la deuxième préoccupation, ou le deuxième facteur du manque d'appropriation,
oui,
c'est aussi la question de toute la question de la gouvernance par rapport aux autorités politico-administratives au niveau de nos communautés. Comment est-ce qu'ils gèrent les biens publics qui leur sont mis à disposition? Lorsque quelqu'un est détourné, comment est-ce que cette personne est sanctionnée, la justice est appliquée, pour pouvoir servir d'exemple et éviter que n'importe qui ne puisse s'approprier les ouvrages communautaires pour des intérêts personnels. Donc, ça c'est une question, d'une part, qui relèverait d'un manque de définition claire des responsabilités depuis le départ, mais d'autre part, c'est une question de gouvernance, et vous savez que c'est une question importante par rapport à notre pays, au niveau de nos communautés locales, au niveau de l'enseignement et des autres services. On construit une maternité, on met les produits, les médecins directeurs prend les produits, il l'amène dans son centre privé et le centre de la communauté souffre. Mais personne ne prend des mesures appropriées. Comment est-ce que la communauté elle-même est impliquée dans la surveillance de la gestion? Nous avons, à notre niveau, proposé une initiative de plaidoyer au niveau de la communauté pour l'amélioration de la qualité de service que nous appelons Voix et Action Citoyenne. Et nous avons un partenariat avec le ministère de la Nouvelle Citoyenneté pour pouvoir implémenter cela. Parce qu'on s'est rendu compte que la population elle-même n'est pas préparée à pouvoir faire le suivi, à pouvoir contribuer à la gestion des ouvrages qui lui appartiennent. Il assiste de manière passive à tout ce qui se passe autour de lui.
Voilà. Alors, avant de répondre au deuxième auditeur, on va accueillir Malonga de Bandundouville et Ogi Bendelo de Kikuita. Malonga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama, et bonjour à notre invité.
On vous écoute. Hein.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, je remercie notre invité de pouvoir nous donner cet adage que tout ce qui fait sans moi, en tout cas, est contre moi. Bon, je vais raconter une petite histoire qui nous a passé ici, à côté du Kwango.
Oui.
Il y avait une carrière là-bas, populaire. Vous savez, dans une carrière, il y a d'organisations comme ONG, populaire. Il faut qu'on s'organise pour avoir quelques caisses là-bas. Mais nous étions surpris, nous avions vu un blanc venir avec les autorités venues de Kinshasa en disant que cette carrière est déjà achetée. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, peut-être vous pouvez être à connaissance de ça, il y a eu des morts graves. Puisque la population a revendiqué son droit, comment est-ce que nous pouvons être limogés dans nos propres sols et tout ça? Et puis, on nous apprend que c'est déjà vendu par un blanc. Et ce blanc venait que nous avions commencé à acheter nos puits. et nous étions prêts à contribuer encore. C'est ce que je donne raison à notre invité, dit que, en tout cas, nous ne sommes pas appris de bien gérer notre propre forme. Alors, je demande ceci. Qu'est-ce qu'on fera alors si on a notre organisation sur terrain et on voit des lettres qui viennent abuser nos organisations? Quelle réaction que nous pouvons montrer envers ces lettres?
Alors, Malonga, ce blanc était venu pour ce monsieur qui était venu dans le Congo. C'était pour quel projet? Vous parlez des carrières de quoi?
Bon, c'était carrière de diamantifère.
Ah, voilà.
Vous savez, Bandundu, c'est diamant.
Oui, je vois. D'accord, merci. Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit. Hein. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité Jean-Serge et bonjour à tous ceux qui sont branchés.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, Jody. J'avais d'ailleurs un témoignage regrettant. Vous savez, dans mon secteur d'origine, c'était l'autre dans le territoire de Gungu, il y avait une fois des gens qui étaient venus avec une ONG qui était basée sur les étangs et les champs. Alors, après avoir sensibilisé la population, on a assuré la population qu'ils n'auront plus de difficultés sur l'achat ou la vente des produits agricoles, les poissons, ainsi de suite. Et après avoir fait toutes les analyses, on ne savait pas, on voyait seulement les véhicules qui venaient prendre les carottes, maïs, millet, on remportait, on ne sait où. Même les poissons étaient à destination inconnue. Alors, jusqu'à ce moment, la population était restée en train de regretter. C'est pourquoi je voulais poser la question à notre invité. Avec cet aspect-là, est-ce que la population peut avoir encore le courage si quelqu'un venait, par exemple, même avec une sensibilisation, si la population peut encore s'adhérer ou s'avouer vraiment à une autre ONG? C'était là ma seule question et bonne continuation aujourd'hui.
Merci. Didier Mundeke, vous êtes à Kinshasa, à Kikwit plutôt. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, Didier, on vous écoute.
Oui, je dis merci pour toute la première fois d'ailleurs d'intervenir à cette radio.
Ok.
Mais je suis auditeur depuis très longtemps là.
Mm-hmm.
Monsieur le journaliste, sur le débat, vraiment, je suis très content là de cela. Pour poser cette question, ma question se dirige justement vers les ministres de l'affaire de l'enseignement supérieur et universitaire.
Oui.
Ici, en Kikwit, nous avons des sites à l'IFP. Il y a l'ancien site et le nouveau site. Mais je vous dis, nous avons un grand regret de voir que les travaux de fin de cycle des étudiants qui ont fini leurs études pour quitter l'ancien site, se rendre au nouveau site à la librairie. Donc, les documents disparaissent en cours de route. Tout ça, ça va au service des ISP qui sont ouvertes partout, même dans des brousses. On dit
oui,
qu'il y a
une, mais Didier. Didier.
Oui, mais c'est pourquoi maintenant
Didier.
Les ministres qui donnent des
Didier,
arrêtés pour
Didier, s'il vous plaît. Oui.
Ne peuvent pas donner de règles.
Didier, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. En tout cas, désolé. On vous retrouve prochainement parce qu'on ne parle pas enseignement, on ne parle pas des disparitions des documents à l'université. Désolé. Adrienne, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Josie. Bonjour aussi à l'expert, Monsieur Jean-Serge Lumo.
Alors, on parle de l'appropriation des ouvrages de développement communautaire. Une question, Adrienne?
Wow, moi j'aimerais savoir, M. Serge Lumu, quelles sont les meilleures stratégies que la population pourra appliquer pour réussir à s'approprier aux ouvrages communautaires? Et la deuxième, souvent avec les ouvrages d'intérêt communautaire, comme des bords, des fontaines, on a toujours remarqué, on nous fait payer cela. Alors ma préoccupation est de savoir, j'aimerais savoir d'où part l'argent qu'on a toujours payé. Merci, M. Djouti.
D'accord, merci. Jérémy Do, vous êtes à Bandunduville. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody Kachema. Bonjour à l'invité. Parce que je salue Papa Malonga et Ogi Bendelo. Bon, moi, je parle en généralité. Je ne sais pas. Si je sais, quand on fait la part des choses, donc ce que l'invité a dit dans la DAGE, lorsqu'il a commencé l'émission, j'ai vu ça, c'est de la réalité. Parce que quand je dis ceci, pourquoi? Même on prend qu'un non-dieu ou bien une source vient par-ci par-là pour faire une chose dans la ville ou dans les autres, dans les villages environnants. Donc vous voyez, après quelques temps, quand ils réhabilitent ces choses-là, après un mois, deux mois, donc vous voyez que tout est en destruction.
Oui.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait ça dans notre pays seulement? Moi, je constate ça dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut ces choses-là? Parce que un mois, deux mois, quand on fait ces choses-là, ça disparaît. Je ne sais pas qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à cela.
Bien, merci. Alors, Jean-Serge, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. On va résumer. Il y a Serge qui a de Kinshasa qui a parlé de Bokondi, la localité de Bokondi à 52 km de Dongo dans la province de l'Équateur, où une structure est arrivée pour le forage d'eau, mais la population s'est opposée. Malonga a parlé aussi du Kwango, où un monsieur est venu pour occuper une carrière d'exploitation des diamants. Il y a eu des morts. La population s'était farouchement opposée. Ogi nous parle des étangs et des champs. Une structure est arrivée pour faire cela, mais après la population était presque flouée. Les auditeurs reviennent presque sur la même chose. Adrien a parlé de meilleures stratégies pour mieux s'approprier des ouvrages d'intérêt communautaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
D'abord, je voudrais dire que une ONG qui vient, il vient comme pour accompagner une communauté. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Et il n'est même pas de l'intérêt de l'ONG de pouvoir s'imposer dans une communauté qui ne l'accepte pas. Donc, il faut trouver un mécanisme. Si l'ONG pense qu'il a quelque chose à faire, il doit trouver le mécanisme pour se faire accepter par la communauté. Parce que, comme je l'ai dit, ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. La deuxième chose, par rapport à la participation citoyenne, je crois que nous avons aussi un problème. Ça, c'est le troisième facteur. Vous savez, j'ai dit le premier facteur, c'est comment est-ce que l'ONG implique la communauté.
Oui.
Deuxième facteur, j'ai parlé de la gouvernance, toutes les questions liées à la gouvernance. Le troisième facteur, c'est comment la mentalité de la communauté. Je voudrais dire à Adrienne et aux autres que la gratuité n'apporte pas le développement. Le développement a un prix. Si quelqu'un a mis le forage, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné de l'argent quelque part. Mais l'argent qui est donné, c'était pour faire le forage, mais la maintenance a aussi un prix. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de mobiliser de l'argent pour que ce forage soit entretenu, mais aussi qu'on ajoute d'autres forages dans la communauté. C'est pour ça qu'il est important de bannir l'esprit de la gratuité au niveau de la communauté. Ça, c'est aussi un des problèmes que les ONG ont apporté à un langage démagogique, comme s'ils venaient tout faire pour la population. Et le jour où ils n'ont plus de financement, ils se retirent. La population n'a pas été habituée à contribuer. Donc ça, c'est très important. Il faut que nous puissions le comprendre. La communauté doit être préparée à une participation citoyenne. Il ne s'agit pas seulement de la machette, mais il s'agit d'apporter des idées constructives, d'analyser, de comprendre les procédures, de comprendre le droit, comprendre ses droits par rapport aux autres acteurs et de les faire valoir par des voies pacifiques comme ça se doit. Donc ça, je pourrais le dire pour tous ceux qui ont parlé de carrière, ainsi de suite. Donc vous avez les trois facteurs qui sont très importants. C'est pour ça que moi, je recommande que pour tout projet, avant même de commencer la mise en œuvre, il faut une bonne campagne de communication pour la sensibilisation, mais aussi pour le changement de comportement.
Jean-Serge,
quelles sont les attitudes qu'il faut, oui.
Regardez, par exemple, ce que fait le Fonds social de la République. Lorsque le Fonds social arrive quelque part, la population, la communauté soumet le projet. Et dès que si le projet répond aux normes, voilà, on vous finance, mais il y a aussi l'apport de la communauté locale. Je crois que c'est autour de 10% ou quelque chose comme ça. Il semble que cette façon permet à la population, après la remise de l'ouvrage, de bien s'en approprier.
Il faut demander au Fonds social, je n'ai pas les données pratiques, mais ce qui arrive souvent, c'est que quand on dit c'est la contribution de la communauté, c'est un individu ou deux dans la communauté qui ont un intérêt particulier autour de l'ouvrage, qui vont eux donner de l'argent et finalement qui prennent la communauté en otage. Moi, je suis en train de parler de la participation de la communauté, tous les citoyens de la communauté. Quand vous dites les 10%, quel est le mécanisme pour mobiliser les 10% auprès de la communauté? Comment est-ce que chaque membre de la communauté se sent redevable par rapport à ce projet? Et comment est-ce que l'ONG qui met en œuvre le projet se sent redevable par rapport à la communauté? Quels sont les mécanismes pour assurer la redevabilité? Quels sont les mécanismes pour assurer le sens des responsabilités? pour que la communauté sache que cette affaire nous concerne. Vous savez, vous avez un bel exemple dans la Bible. Je sais que tout le monde n'est pas chrétien, mais on peut se référer à la Bible comme un des ouvrages de référence de qualité. Vous avez l'époque de Néhémie, quand il vient pour une œuvre de restauration de son pays, son discours c'est « Lévons-nous et bâtissons ». Et vous sentez qu'il implique toute la communauté dans la procédure. Même si au départ, en tant qu'expert, il avait fait des analyses sans associer les autres, mais il vient, il partage ses analyses à la communauté adhère à ses idées,
oui.
Et la mise en œuvre s'est faite avec la communauté. Et la communauté se sent responsable en sachant que ce que nous faisons créer à notre destinée, à notre avenir, à notre héritage. Ils ne le font pas comme participant à l'œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre.
D'accord, Jean-Serge, merci. On s'arrête par ici. Pour aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir prochainement. Nous rappelons que vous êtes expert en développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.